BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
9h passées de 31 minutes, c'est le nouvel horaire des experts désormais de 9h30 à 10h30, toujours en direct bien sûr, pour une heure de débat, d'analyse, de controverse sur l'antenne de BFM Business. Ça chauffe à nouveau entre le patronat et le gouvernement qui veut raboter les allègements de charges. Oui, 1,5 milliard pour compenser la hausse du SMIC le 1er juin qui automatiquement va rehausser les allègements de charges. Elle aussi, les organisations patronales dénoncent un accroissement du coût du travail. Bercy affirme de son côté vouloir corriger un effet d'aubaine pour les entreprises. Entre les deux, les politiques s'en mêlent. L'ancien porte-parole du gouvernement de Gabriel Attal, Prisca Thévenot, dit étonnamment la même chose que Jordan Bardella sur X, ex-Twitter. Pas touche aux allègements généraux. La vérité, c'est que les allègements de cotisations patronales sont passés de 50 à plus de 80 milliards d'euros depuis le Covid et que la facture, eh bien, n'est plus tenable. Je rappelle qu'on va devoir trouver entre 100 et 120 milliards d'euros d'économies à court terme simplement pour stabiliser notre dette. Tout le monde va devoir faire des efforts. Alors, faut-il raboter les allègements de charges ou pas? Ce sera le premier débat des experts ce matin. On parlera ensuite du bilan de François Villeroy de Gallo à la Banque de France. Le gouverneur va quitter ses fonctions le mois prochain. Il a donné son dernier discours de politique monétaire il y a quelques jours. Et puis, la place financière de Paris rayonne. Oui, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut en parler. Pourquoi la moitié des demandes d'agrément bancaire de la zone euro se font désormais en France? Ce sera le troisième sujet du jour. Et puis, véhicules autonomes, l'Europe à la traîne. C'est le haut commissariat au plan qui donne l'alerte dans une note publiée hier et qui s'inquiète du retard pris par les Européens dans cette technologie critique. Voilà pour le programme du jour, un programme varié. On est parti ensemble pour une heure de débat, de controverse. Il est 9h33. Vous êtes en direct sur BFM Business et vous y êtes bien. C'est les experts. Allez, c'est parti. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sylvie Matera. Bonjour. Merci. Sylvie, senior advisor au cabinet de conseil et d'audit Mazars. À vos côtés, Frédéric Farah. Professeur Farah, bonjour.
Bonjour.
Économiste et professeur à l'Université Paris 1. Et face à vous, j'ai le plaisir d'accueillir Marcus Kerber. Professeur Kerber, bonjour Marcus. Bonjour. Avocat, professeur de finances publiques à Berlin. Bienvenue à tous les trois. Le premier sujet du jour, je vous le disais, c'est la polémique qui enfle entre le patronat et le gouvernement qui cherche à faire quelques économies pour tenir la trajectoire de déficit cette année. On sait que la crise du Moyen-Orient a un impact. 6 milliards d'euros, l'exécutif l'a d'ores et déjà annoncé. On attend désormais le détail de ces 6 milliards d'économies pour compenser tout ça. Parmi les pistes, 1,5 milliard de coups de rabot sur les allègements de charges. Évidemment, les organisations patronales sont vent debout. Il y avait un conseil des entreprises qui se tenait jeudi dernier à Bercy. Allez, je commence avec vous, Sylvie. Est-ce qu'il faut raboter ces charges comme le prévoit le gouvernement? Je le rappelais en introduction de cette émission, on est quand même passé de 50 à plus de 80 milliards d'euros de factures avec ces allègements de charges.
Certes, mais en fait, le problème, c'est de trouver des fonds supplémentaires compte tenu des dérapages potentiels liés, oui, à la situation géopolitique. Maintenant, faut-il les trouver auprès des entreprises? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'une problématique de compétitivité des entreprises françaises est très importante. Et il faut voir de la situation actuelle par comparaison à nos partenaires. Les entreprises françaises sont lourdement chargées par rapport à leurs principaux compétiteurs. Oui. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller chercher de l'argent là.
Parce que l'idée, c'est... Alors, il faut expliquer, c'est un tantinet technique. On a essayé de le faire hier sur l'antenne. Moi-même, ce matin, je rappelle que le 1er juin, le SMIC sera augmenté d'à peu près 2% puisqu'il est indexé sur l'inflation. Et le mécanisme des allègements de charges sur les bas salaires, qui vont jusqu'à 3 SMIC, sont eux-mêmes indexés automatiquement sur le SMIC et que donc, quand on augmente le SMIC, c'est toute la chaîne des allègements généraux qui est renchérie jusqu'à 3 SMIC. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui paye un salarié jusqu'à 5 500 € brut va voir ses allègements augmenter. Et c'est pour ça que Bercy dit, bah, il y a un effet d'aubaine là. Donc, l'effet d'aubaine, c'est 1,5 milliard. Je rabote d'1,5 milliard pour tenir ma trajectoire. Frédéric Farah, qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis un peu surpris, que, même si je comprends la position du patronat, parce que ce débat est ancien. Alors, je rappelle le rapport Bozio-Vasmer.
Oui.
Je rappelle les rapports de la Cour des comptes. Je rappelle les rapports de la Sécurité sociale, qui nous disent, à peu près de manière consensuelle, et je ne crois pas que dans ces institutions, on peut voir des gens contre les entreprises ou que sais-je, qui nous disent, il y a eu de l'empilement, le bilan est mitigé, il y a eu des effets d'aubaine, ça a coûté de plus en plus cher, posons-nous la question sur ça. Oui. Il y a eu un débat, en plus, le rapport Bozio-Vasmer a été...
On en a beaucoup parlé sur ce plateau, hein.
Voilà.
C'est vrai que... Bon,
donc, à partir de là, je comprends l'inquiétude des entreprises. Quant à la compétitivité, je rappelle le rapport Grébin sur la compétitivité par rapport à la Chine,
oui,
qui nous dit que de toutes les façons, même si on rabotait le coût du travail, l'écart avec la Chine, par exemple, est tel que... On n'arrivera jamais en
mais
utilisant...
Je ne parle pas de la Chine, je parle des autres partenaires européens. Voilà, bon, Chine, il y a des problématiques sociales qui n'ont rien à voir avec les conditions de travail en Europe. Hein.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, évidemment. Et alors, c'est ça qui est intéressant. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais en même temps, en fait, où je perds un peu pied dans cette affaire, parce que je me dis, normalement, les Européens... Ça devrait être nos partenaires, non? Ça devrait pas être nos concurrents.
Enfin, donc, oh, on peut être les deux, hein. C'est quand même une économie ouverte et en concurrence.
Je suis d'accord avec l'idée. Ce que je veux dire par là, je comprends qu'il y a une problématique de compétitivité française.
Oui.
Qui se joue.
Pardon, Frédéric Farah, juste. Est-ce que avec 1,5 milliard de coups de rabot sur les allègements de charges, ça joue véritablement sur notre compétitivité?
Non. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on veut tenir ensemble deux choses. La compétitivité et tenir nos finances publiques.
Ouais. Oui.
Alors, je sais pas comment on fait pour avoir les deux à la fois.
Eh oui.
J'en sais rien. Et comme aujourd'hui, effectivement, ce poste a pris tellement d'importance, bah, évidemment, le gouvernement, bah, qu'est-ce qui se passe quand il faut à la boutique? Bah, c'est le rabot, quoi. On regarde à droite, à gauche, on essaie de couper,
mais
quoi.
D'un autre côté, ce que tu disais, c'est tout à fait vrai. Il y a eu un empilement.
Oui.
Donc, il faudrait peut-être un moment essayer de simplifier la situation, parce qu'autrement, on arrive, effectivement, c'est...
On voit que dès qu'effectivement, il y a une hausse du SMIC, ce problème se pose. Il avait été posé en 2022, mais 2023, ça a créé quand même une facture qui est difficilement soutenable aujourd'hui.
Ben oui.
Professeur Kerber,
l'invité allemand...
Le point de vue de l'allemand.
Observateur, parce que
sur cette complexité française,
des affaires françaises, et cela
si,
d'autant moins,
c'est
une affaire vraiment française. Je vois bien les intérêts en jeu, le trésor public, la compétitivité des entreprises françaises. Je pense le problème est un problème européen, et il faut, pour reprendre la citation ou les mots d'un illustre français, il faut viser haut pour aller loin. Et ce micmac que nous voyons, dont nous sommes témoins, ça existe dans d'autres formes, en Allemagne également.
Est-ce que ça existe? C'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes un grand spécialiste des finances publiques.
Nous sommes devenus les prisonniers des indexations, les prisonniers de l'État social, de l'État de la Providence, qui nous a été promis, proposé par des politiciens très démocratiquement élus. Et, tout ceci est devenu un fléau. Et un fléau à double tranchant, sous deux aspects. Premièrement, parce que ça renchérit le coût d'être du travail.
Oui.
Hein, ça, c'est devenu... Je ne me compare pas avec la Chine, où les conditions sociales sont, disons, déplorables, non européens, on ne veut pas imiter ça.
C'est pas le même modèle.
Mais le niveau du coût de travail en Europe, en Europe, est insupportable. Hein. Ils mettent en péril notre compétitivité à long terme. Deuxièmement,
non mais donc l'État, quoi, pardon social, Marcus Kerber, ça veut dire qu'il faut baisser les salaires?
Non, il faut
arrêter les augmenter.
Mais il faut réduire les dépenses de l'État social. Et ceci pour plusieurs raisons. Regardons le chômage, l'assurance chômage. Nous avons en Allemagne un marché de travail qui d'ailleurs n'est pas vraiment un marché.
C'est au plein emploi depuis des années.
Un ensemble réglementé où il y a 3 millions de chômeurs et partout.
3 millions de chômeurs en Allemagne.
En Allemagne. Et
on est à 3% de chômage en Allemagne.
On ne trouve toujours pas des employés pour des petits bulots dans les restaurants, dans les services. Alors c'est une situation qui ne ressemble pas vraiment au bon fonctionnement du marché du travail.
Je croyais qu'on était au plein emploi en Allemagne.
De discuter la suppression carrée de l'assurance chômage. Voilà. Et le deuxième aspect, c'est en Allemagne surtout, on attire par cet état social ou l'état de la Providence une immigration non désirée et non désirable. Il y a du tourisme
avec une démographie qui baisse en Allemagne, beaucoup.
Entre l'Ukraine et l'Allemagne,
la baisse des natalités.
Les gens qui viennent en Allemagne pour encaisser et qui font le virement en Ukraine occidentale ou qui se déplacent. On a le même phénomène avec les immigrés syriens. Je ne dénonce pas l'immigration en tant que telle, mais ce n'est pas une politique d'immigration de faire des cadeaux sur un plan social à tout le monde. Donc, en plus, on a, par l'État social, détruit la valeur du travail. Karl Marx disait toujours, le travail, c'est le métabolisme avec la nature, de l'homme avec la nature. Alors, tout ceci, nous sommes très loin de ça.
Je vois sceptique,
Frédéric. On considère le travail comme un mal nécessaire, et puis c'est l'État nounou qui nous fournit les moyens de...
Frédéric Farah, vous êtes d'accord avec ça?
L'État social fait partie de la décadence européenne.
Bon, un avis tranché, Frédéric Farah, je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça.
Non, c'est amusant, quand je vous entends, j'ai comme l'impression qu'il ne s'est rien passé dans les États européens entre 1980 et 2026. En fait, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on est dans un moment de l'histoire de l'État social qui court entre les années 60-70. Bon, alors, je rappelle que dans votre propre pays, à la fin, des années 90, le chancelier Schröder avait estimé qu'effectivement l'Allemagne, qui était jugée l'homme malade de l'Europe à l'époque, puisque je rappelle, les excédents commerciaux, c'était nous, les déficits, c'était les Allemands, je vous rappelle cet épisode.
Lointaine époque.
Oui, mais quand même, je veux dire, n'oublions pas, c'était pas au Moyen-Âge là dont je suis en train de parler. Je veux dire, je suis pas en train d'évoquer la première croisade, Godefroy Bouillon, 1095. Bon, je veux dire, après, on peut
nous
évoquer Godefroy Bouillon.
Jusque-là.
On va pas remonter jusque-là. Et donc, il y a eu les réformes Schröder. Avec les différentes réformes, Hartz,
au début etc. des années 2000.
Et donc, il y a eu cet effort, un redimensionnement de l'État social en tant que tel, surtout que je rappelle, sans vouloir entrer dans votre histoire, que le moment de l'ascension ou l'affirmation de l'État social allemand, c'est plutôt la période Willy Brandt, c'est plutôt par là, même s'il n'a pas duré longtemps. Donc, résultat des courses, la plupart des pays européens, dans les années 90, ont fait un effort considérable du fait de l'entrée dans l'euro, de réformer leur marché du travail, le marché des retraites, les réformes des administrations. La plupart. Donc l'État social, ce n'est pas une espèce de chose qui joue contre l'économie, comme vous le dites. En plus, ça a été réformé. C'est-à-dire le marché du travail, même en France, il y a eu des efforts en termes de flexibilisation.
Vous ne vivez pas dans la réalité.
Non, j'ai l'impression que...
L'Agence fédérale pour l'emploi, qui s'appelle comme ça, qui organise le chômage, disons-le autrement... Elle comprend 114 000 fonctionnaires ou agents. Sa performance en matière d'intermédiation ou de rapprochement des chômeurs avec du travail sont fort améliorables, perfectibles.
Oui. Marcus, juste à ce qu'on peut s'arrêter sur ce chiffre.
Il gère un budget de 40 milliards.
Marcus Kerber.
Voilà. Je pense que tout ceci mérite réforme. Et la question principale est, est-ce que nos démocraties sont capables de réformer cet État social. Vous l'appelez
l'État social.
Je l'appelle un fléau, c'est devenu un fléau.
Non,
ce qui était au début une bénédiction, au début du XXe siècle, est devenu un véritable fléau.
Marcus Kerber, je voulais qu'on revienne sur le chiffre que vous venez de donner de 3 millions de chômeurs en Allemagne, moi qui me surprend beaucoup. Pour moi, l'Allemagne est au plein emploi et depuis des années,
on
tombait même à 3 ou 4% de chômage, c'est-à-dire sous les 5%.
Oui, mais la situation...
C'est ce que j'appelle du plein emploi, moi, pardon, chez les économistes.
C'est une situation complètement intenable. Le marché de travail n'en est pas un.
Que le marché du travail, c'est un marché comme les autres.
C'est l'organisation, l'apaisement des chômeurs à longue durée. Les réformes dont vous avez parlé ont été révisées par la coalition entre libéraux écologistes et sociaux-démocrates, c'est-à-dire le principe que quelqu'un qui touche des subsides doit déclarer également ses autres revenus, et notamment son patrimoine, a été très largement relativisé. Et le soi-disant Bürgergeld, Madame Teresa, ce que ça veut dire, c'est-à-dire le soutien sans condition aux citoyens qui sont dans le besoin, a été un tout petit peu réduit, mais au fond, le système continue. Et la majorité des Allemands s'oppose à ce système, hein, parce que chez le boulanger, dans le restaurant, dans le commerce en général, on a du mal à trouver des employés motivés.
D'accord. Donc en gros, si les gens ne veulent pas travailler, parce qu'en fait ils sont paresseux, ils veulent pas bosser. Quoi.
Non, c'est pas une équation.
D'accord. Bon, très bien. Bah, écoutez, au moins le problème est réglé. Donc les Allemands sont des paresseux, ils veulent pas travailler. Ok. Bah, on a compris maintenant. Ouais.
Bon. Il y a pas de souci. Revenons en France avec une dernière question.
Excuse cette excursion.
Si on revient au coût du travail en France, est-ce qu'il est trop élevé en France? Donc est-ce qu'il y a un risque? Et deux, on parlait quand même du modèle social, c'est la moitié des dépenses publiques, Frédéric Farah, donc c'est un modèle qui pèse de plus en plus, et sur un nombre qui risque de se restreindre d'actifs puisqu'il repose sur le travail, et uniquement sur le travail. Ouais, ça, donc est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens pour financer ce modèle social? Alors, est-ce qu'il faut mettre très clairement une TVA sociale en France, Sylvie Matera?
Alors, donc, d'une manière générale, moi je suis, j'aime pas du tout les situations radicales d'un côté ou de l'autre, et donc vaut mieux avoir une attitude plutôt pondérée. Je trouve que c'est vrai que l'état social, c'est quand même un marqueur de l'Europe démocratique, et donc c'est comme ça. Maintenant, il y a certains pays où il y a eu des excès. Je dois dire que la France est dans une situation par rapport à ses partenaires européens où la dépense sociale est très importante. Oui. Il y a peut-être effectivement à regarder de plus près pour voir garder son efficacité.
On peut certainement
optimiser.
On est dans
un pays où la dépense publique est parmi les plus importantes, sinon la plus importante d'Europe actuellement, et où les citoyens ne sont pas satisfaits des services publics. Donc ça pose quand même question. Quand on a une grande dépense publique très importante et que le service qui est produit n'est pas satisfaisant. Donc là, je pense qu'il faut quand même regarder son efficacité. Donc et quand on regarde, sans revenir sur le caractéristique de l'Europe sociale, il faut quand même faire attention à avoir une certaine homogénéité au sein des certains pays européens, au sein des pays européens. Et c'est vrai que la France a eu un décalage ces derniers temps qui serait bon, à mon avis, de regarder pour aligner mieux les conditions de compétitivité françaises par rapport à nos partenaires européens.
Oui. Est-ce qu'une TVA sociale aiderait à ça, Frédéric Farah?
En gros, la TVA sociale...
On peut peut-être rappeler ce que serait une TVA sociale.
C'est-à-dire, je vais revenir sur... En fait, c'est TVA sociale, juste un mot avant de la définir, c'est que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, avant d'oublier, il faut pas oublier que depuis, et la TVA sociale s'inscrit dans cette dynamique, depuis la fin des années 80, on assiste à une fiscalisation de la protection sociale.
Oui, exact.
C'est une fiscalisation de la protection sociale avec la montée en charge de la CSG.
Exactement.
Donc, voilà, la CSG, etc. Donc aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que notre système tel qu'il avait été pensé au sortir de la guerre reposait sur le travail. Le problème dans une population qui vieillit, aujourd'hui, les conditions n'étant pas les mêmes, puisqu'aujourd'hui, quand ce système est pensé, le capital n'est pas mobile. C'est très important. Et quand il va devenir mobile à partir des années 80, bah évidemment, on n'est plus dans le même rapport capital-travail. Donc par conséquent, on s'est dit, tout ne peut pas reposer sur le travail, et Michel Rocard nous a proposé la CSG. Et donc aujourd'hui, la part qui revient à la fiscalisation de la protection sociale ne cesse d'augmenter, même si les cotisations restent majoritaires dans le financement. Mais donc, et puis c'est ajouté, et c'est là comme ça que je veux introduire la TVA sociale, le fait qu'il y avait un autre joujou dans notre politique économique qui n'existe plus, qu'on a utilisé à tort ou raison, on pourrait en débattre longtemps, qui était la dévaluation monétaire.
Oui.
Donc, la dévaluation monétaire a disparu. Donc, on s'est dit, un instrument en moins. Que fait-on? On a compris que quelle est l'obsession désormais de toutes nos politiques, et qui doit tout faire pour le meilleur et souvent pour le pire, la fiscalité. La fiscalité est devenue l'obsession française. C'est-à-dire...
Elle a toujours été. Toutes les révolutions sont nées de révolutions fiscales en France.
Mais c'est-à-dire, la fiscalité, avec ses niches fiscales, ça doit stimuler l'activité. La fiscalité, en la manipulant, ça doit redonner du pouvoir d'achat.
Ah oui, on lui
la
donne fiscalité beaucoup
doit,
d'objectifs.
Doit
oui.
tout faire. Donc, un machin fait tout. Donc, on s'est dit, puisqu'on a la fiscalité, attaquons sur un jouet made in France, la TVA. Ah, voilà un truc que nous avons fabriqué, et maintenant, on va la colorer.
Qui a fait Florès.
Oui,
qui a fait
Florès. Beaucoup de succès.
Invention française,
succès,
la TVA.
Et qui a eu beaucoup de succès, et on s'est dit, très bien, la TVA sociale, ça va être de la dévaluation déguisée.
Parce,
ben oui, parce qu'en gros, qui on va faire payer dans la TVA sociale? Qui va devoir payer une TVA supplémentaire? C'est les produits qui vont entrer sur le territoire, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, pas européen, puisqu'entre nous, il n'y a pas de micmac. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, on va essayer d'être compétitif en manipulant la TVA pour faire en sorte que c'est encore une fois par cette fiscalité-là qu'on va pouvoir financer la protection sociale pour que ça ne touche pas la compétitivité, ça ne touche pas le travail. Donc, on va encore demander à la TVA et à la fiscalité de faire quelque chose. Et comme on ne peut plus utiliser la monnaie, on fait de la dévaluation fiscale. Voilà ce qu'on fait.
Bon. Est-ce qu'on peut juste remettre les choses un tout petit peu en ordre? Alors, je me souviens très bien de la déclaration de Michel Rocard en introduisant la contribution sociale généralisée.
1991.
Au début, c'était une petite instillation, pas plus.
Oui, oui.
Et depuis, 1%. Vous voyez bien, c'est
oui,
devenu...
Mais pourquoi?
Écoutez,
pourquoi mais je peux vous le dire si vous voulez.
Parce que l'État a besoin de l'argent et il doit absolument, par les régimes sociaux, apaiser certaines populations. Et je pense que nous sommes très proches de l'heure de vérité. Alors, la fiscalisation du problème, nous le connaissons également en Allemagne. Les pensions de retraite ne sont plus du tout garanties par les contributions de la génération qui travaille.
On connaît le problème.
L'État fédéral contribue à cela chaque année sans 30 milliards d'euros. Hein, c'est-à-dire, c'est le contribuable d'aujourd'hui et celui qui paye les cotisations de la retraite d'aujourd'hui et qui finance celles et ceux qui reçoivent une pension. Alors, l'État social est devenu une source d'injustice. Une économie aussi prospère et aussi puissante comme l'Allemagne donne aux cotisants un niveau de pension par rapport à leur dernier salaire de 48%.
Oui.
De 48%.
C'est pire qu'en France.
Alors c'est nettement au-dessous du moyen en Europe. À partir du moment où on dit et on prêche, on défend, coûte que vaille, l'État social, ou en disant qu'il faut faire quelques réformettes, on défend l'injustice.
Non, mais je veux dire.
L'injustice. L'État social est devenu aujourd'hui synonyme d'injustice.
Non,
et il faut appeler un chat un chat.
Mais alors,
réponse de Frédéric Farr.
J'ai peur que votre chat soit un chien, mais c'est pas grave. Mais donc,
j'adore les chiens.
Mais vous avez raison, moi aussi. Alors ça tombe bien. Non, le problème c'est que si on a ce débat sur l'État social qui nous coûterait cher, c'est-à-dire principalement dans le cas de la France, l'assurance maladie et la retraite.
Oui. Oui, il faut rappeler, quand on parle d'État social, enfin la moitié c'est quand même un quart les retraites, hein, on finance les pensions, et presque quasiment un quart équivalent aussi, plus de 300 milliards, les dépenses de santé.
Oui, et alors
majoritairement pour nos seniors.
Mais ce que je veux dire par là, si on a ce débat aussi âpre, c'est parce qu'au départ c'est une bonne nouvelle. Grâce à l'État social, nous avons gagné en espérance de vie. Nous vivons plus longtemps. Et donc c'est merveilleux. C'est pour cela que nous pouvons nous disputer ce matin, parce que nous allons vivre plus vieux et en meilleure santé. Merci l'État.
Le problème c'est qu'on ne travaille pas plus vieux plus.
Ça c'est une autre question
qui vient avec. Ce modèle.
Et juste une chose, parce que c'est important pour moi l'histoire économique, il ne faut pas l'oublier. En 1990 en Europe, on accorde enfin la libre circulation des capitaux. Nous sommes d'accord avec ça?
Oui.
Donc, à partir de là, vous modifiez logiquement le rapport travail-capital. Parce que qu'est-ce que nous dit l'économie? L'économie nous dit une chose très simple, c'est sur le facteur moins mobile que porte l'ajustement. Mmh. Donc, quel est le facteur moins mobile? C'est le travail. C'est... Quel est le facteur plus mobile? C'est le capital. Donc forcément, le travail et arrive à ce moment-là, Rocard, on est dans la même chronologie, il comprend, et en plus, 2 ans après... On signe pour l'euro, c'est-à-dire, etc. Donc on comprend bien que le cadre macroéconomique n'est plus le même. Donc à partir de là, la politique économique qu'on doit engager et les outils qu'on va utiliser ne seront plus jamais les mêmes. Donc on comprend que c'est la fiscalité qui doit agir, parce que si le coût du travail ne cesse de renchérir alors que c'est le facteur le moins mobile, Ben c'est ça le problème.
C'est pourtant ce qui s'est passé,
Sylvie Matar.
Alors, il y a un point sur lequel je serais d'accord avec Marcus, c'est qu'on arrive près du point de rupture. Là, maintenant, on a un niveau de prélèvements sociaux qui est très proche de l'insupportable.
Et on a déjà connu un ras-le-bol fiscal il y a 10 ans.
Alors, c'est vrai que c'est essentiellement lié à la maladie et aux retraites. Et il y a des domaines où on peut plus continuer à cotiser, avoir un système de répartition dans un pays où il y a de moins en moins d'actifs qui payent pour les non-actifs. Donc, on arrive à, sans doute proche d'un point de rupture où il faudra trouver d'autres solutions pour financer notamment les retraites. Et pareil, il y a quelque chose dont vous avez parlé de l'immigration tout à l'heure, mais il y a quelque chose qu'on oublie fondamentalement, c'est les problématiques démographiques en Europe.
Et oui.
Et pour lesquelles certains pays européens, dont l'Espagne, ont choisi d'avoir une politique migratoire volontariste.
L'Espagne,
parce
l'Italie,
vous
l'Allemagne.
Avez raison, il y a certains travaux qui ne trouvent plus de gens qui veulent les faire. Et c'est pour ça, et compte tenu du vieillissement démographique et de la diminution même démographique, je pense que l'immigration, forcément en avoir besoin.
Mais l'immigration motivée par des incitations des systèmes sociaux est très certainement pas l'immigration sollicitée ou désirable ou désirée. Donc, on a besoin d'immigrer.
C'est la question de l'immigration de travail et
qui ne s'installe pas dans nos pays
familial.
Pour profiter des systèmes sociaux qui, par exemple, en Allemagne, offrent aux réfugiés, même des services de santé gratuits. Donc, ça va faire exploser les systèmes, ces couches, ces populations migratoires que vous venez de cerner n'ont pas une identification avec ni la France ni l'Allemagne. Ils viennent pour profiter de ce système. Point la ligne.
Au début, oui,
il y a une migration de travail qu'on a pu voir en Espagne ou en Italie.
On a à peu près 1 million de Syriens en Allemagne. 2/3 de ces Syriens, depuis 10 ans, n'ont pas trouvé de travail.
Oui, non, mais...
C'est pas la situation pour les médecins syriens. Sans les médecins syriens, les hôpitaux allemands seraient dans une situation assez pénible. Mais je dirais, les systèmes sociaux que nous nous permettons toujours, et qui provoquent plus ou moins tard une rupture, attirent une immigration non pas toujours désirable.
Allez, le mot de la fin, Frédéric.
Voilà, c'est pas une raison de venir en France ou en Allemagne tout simplement pour s'installer, pour s'incruster dans les systèmes sociaux.
Je suis tout à fait d'accord sur l'idée que la grande crise européenne, c'est la crise démographique, ça c'est évident, c'est la crise centrale, parce qu'effectivement, tout le continent, évidemment, fait face à une crise démographique considérable. Transformer l'immigré en une espèce d'homo economicus qui fait un calcul savant entre je reste chez moi et je vais profiter de la sécurité sociale chez les autres, j'y crois pas 5 minutes, il faudra me le prouver. Mais effectivement, et que l'Europe a besoin d'immigration. On voit même Madame Meloni, je veux dire, qui est un gouvernement, qui est pas de la gauche radicale, à moins que j'ai loupé un truc, quoi. Je veux dire, qui elle-même, derrière son discours, se rend compte que vu la situation du marché italien, n'a pas le choix.
Oui.
C'est-à-dire que il y a une politique, l'Espagne aussi.
Nationaliser 500 000.
Moi, je pense qu'on parle de pragmatisme, de réalisme, il faut regarder les choses en face. Et imaginez que les immigrés arrivent pour piller notre sécurité sociale.
Regardez un petit peu les États-Unis. Les États-Unis ont été toujours un pays d'immigration.
Ah oui, Trump, c'est
les immigrés font partie des entrepreneurs de demain. Hein. Ils viennent d'une situation très certainement pas très confortable. Ils se trouvent sur le marché de travail aux États-Unis et on leur donne très peu de choses. Et ils doivent bosser. Point la ligne. Donc, c'est par définition la bonne immigration. Les immigrés qui viennent sur le marché américain sont d'autres immigrés que les immigrés que nous recevons en France ou en Allemagne. Alors donc, nous ne tenons pas en compte dans la discussion du problème démographique le changement de culture. Si vous allez un petit peu en province, en France, comme je le fais, avec un scooter de temps en temps, mais je vois quand même un changement de population, une mutation qui me laisse pas indifférent, hein, qui me laisse pas.
On s'éloigne un peu des questions économiques. La vraie question économique sur l'immigration est effectivement d'une immigration familiale ou d'une immigration.
Faut pas laisser ce sujet à des représentants d'une politique identitaire.
On va passer à des questions monétaires pour la suite. Une autre ambiance. Ne quittez pas. On se retrouve dans une minute. On va parler du bilan de François Villeroy de Galhau à la tête de la Banque de France. On va parler attractivité de la place place financière de Paris. Et puis, si on a le temps, malheureusement, du retard accusé en Europe sur le développement des véhicules autonomes. C'est un sujet absolument passionnant. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
On est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 2 minutes. Vous le savez, dorénavant, c'est le nouvel horaire des experts. 9h30, 10h30 tous les jours en direct sur BFM Business pour décrypter l'actualité de l'économie. Aujourd'hui avec Sylvie Matera, économiste, senior advisor du cabinet de conseil d'audit Mazars. Frédéric Farah, économiste et professeur à l'Université Paris 1. Et Marcus Kerberg, avocat et professeur de finances publiques à Berlin. On va parler politique monétaire maintenant avec le départ de François Villeroy de Gallo. Ça fait plus de 10 ans, il est arrivé en 2015 à la tête de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Il a tenu jeudi dernier son dernier discours de politique monétaire. Il quittera l'institution financière le mois prochain. Et je voulais qu'on voit ensemble quel bilan vous tiriez des 10 dernières années. Alors, sur le bilan de François Villeroy de Gallo, mais au-delà de comment le monde, le paysage monétaire a évolué. Vous connaissez bien la Banque de France, Sylvie Matera, puisque vous y êtes passé. Moi, c'est là-bas que je vous ai connu il y a quelques années.
Oui, quelques années.
Déjà. Quel bilan vous tirez de ces dernières années, ces 10 dernières années?
Alors, on parle de la politique monétaire, mais c'est pas que la seule mission de la Banque de France. Hein. Et donc, si on veut regarder le bilan du gouverneur sur les 10 dernières années, il y a, dans les grandes missions, il y a la politique monétaire, bien sûr, mais qui est maintenant une politique monétaire européenne. Oui. Donc, on participe à la politique monétaire européenne. Il y a la supervision bancaire, c'est très important, la supervision bancaire. Et donc, la Banque de France exerce cette supervision en France et aussi dans le cadre de la supervision bancaire unique à Bruxelles. Et puis, il y a tout le dispositif interne qui concerne le maillage économique, la surveillance des évolutions économiques en France, avec un réseau assez dense. Et donc là, il y a eu aussi une évolution importante. En termes de politique monétaire, je pense que la France a eu une voix très écoutée au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE sur ces 10 dernières années, parce qu'on avait l'avantage d'être une voix un petit peu intermédiaire entre ce qu'on appelle traditionnellement
les colombes et les faucons.
Voilà. Donc les partisans d'une politique monétaire très dure et favorable en général à une augmentation des taux dès qu'on avait un frémissement sur le front de l'inflation, qui sont de manière traditionnelle les pays du nord de l'Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, et puis les partisans d'une politique plus accommodante, je dirais, et qui regarde aussi les conditions non seulement inflationniste, mais aussi les conditions de croissance. Et là, c'est plus davantage les pays du Sud qui sont plus favorables à des conditions politiques monétaires accommodantes. Donc la France a été une voie médiane pendant toutes ces années et très, très écoutée au sein du Conseil des gouverneurs.
Est-ce que la France est une voie écoutée à Francfort ou est-ce que Paris, tout comme la Bundesbank en Allemagne d'ailleurs, ne sont plus que les porte-parole finalement de la BCE qui est l'institution majeure européenne? Marcus Kerberg, Frédéric Farah et puis Sylvie.
Écoutez, la France est bien entendu très écoutée, même si, écoutez, Madame Lagarde stresse celui qui a un peu d'expertise en matière monétaire. mettre à la tête de la Banque Centrale Européenne une non-économiste...
Une avocate de formation.
Une politique, une communicante...
Ça devient un job très politique, président de la BCE.
Qui pense pouvoir expliquer tout et rien, et très certainement un expériment totalement raté.
Jérôme Powell n'est aussi pas un économiste.
Mais je pense qu'on devrait, dans ce contexte, rendre hommage à celui qui quitte la Banque de France. J'étais en désaccord avec lui sur les grands choix de politique monétaire. On a eu des vifs échanges de principes, mais c'est un monsieur très noble, noblesse naturelle, avec qui on arrive à avoir des amples discussions, et qui a très certainement, au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, apporter l'expertise de la France qui manque cruellement à Madame Lagarde et qui a très certainement essayé de jouer un intermédiaire, un rôle intermédiaire entre les pays du Sud et les pays du Nord, pour le simplifier un petit peu. Et je tiens surtout à rendre hommage au gouverneur par ce geste très noble de quitter sa fonction prématurément pour rendre la position inaccessible à des personnages avec un profil pas très expert. Il y a un petit incident au sein de la Banque de France, la nomination de Sylvie Goulard, qui était une diplomate de formation,
oui.
était nommée, je pense, vice-gouverneur. Ça, c'est une question...
Oui, qui a eu quelques affaires au niveau européen.
Oui, non seulement ça, préalablement, et je dirais, elle n'était pas brillante en matière de politique monétaire, mais je trouve, pour conclure, ce geste de M. Villeroy de Galhau extrêmement noble, un monsieur distingué qui va manquer à l'Europe.
Bon, il va prendre la présidence des apprentis d'Auteuil à partir du mois de juin. Ma question, c'était, est-ce que les banques nationales n'ont pas perdu la Bouba quand même, la
absolument,
Bundesbank,
absolument.
C'est une référence au niveau européen.
Absolument.
Je trouve qu'on entend beaucoup, beaucoup moins parler
aujourd'hui. Alors, beaucoup moins pour parler tout de suite de la Bouba, comme vous dites. La Bundesbank n'est plus l'ombre de ce qu'elle a été à l'époque.
Et pourquoi ?
Un économiste en chef comme Ottmar Issing, qui vient de fêter ses 90 ans, qu'on appelle en Allemagne, à tort ou raison, Monsieur l'Euro, faisait partie de cette catégorie élitaire incorruptible de professeurs en matière de oui. politique monétaire, qui était également praticien. Donc, cette catégorie très rare est devenue... A disparu. Alors, et comme c'est la Banque Centrale Européenne qui offre les bons postes, je dirais la Bundesbank est toujours en concurrence. Donc les gens s'orientent plutôt vers la Banque Centrale. Et là, il y a un microcosme de décisionnaires que je renonce à qualifier.
Non mais, je suis un peu surpris parce que...
Vous êtes toujours surpris.
Oui, mais parce
comment est-ce que vous pouvez être surpris en étant dans une émission avec moi ? Je suis l'homme qui aime bien surprendre.
Ah bah, c'est important.
Rassurez-vous.
Et on a le droit de ne pas être d'accord.
Oui, mais c'est pour cela que je crois qu'en démocratie, c'est plutôt le dissensus que le consensus qui domine. Mais bon, ça c'est une autre question. Non mais, où je suis surpris, c'est que nous avons fait un choix politique. Nous avons voulu faire une souveraineté partagée de notre monnaie. Donc, à partir du moment que le pouvoir se déplace... Alors, je me suis toujours... méfier des angles bancs, c'est-à-dire les angles bancs, la Banque Centrale Européenne, les marchés financiers, la mondialisation, et il faut être plus précis parce que je dis toujours à mes étudiants, je n'ai jamais dîné ni avec la Banque Centrale, ni avec la mondialisation, ni avec les marchés financiers, je ne les ai jamais vus dans la rue, hein, s'ils sont là, qu'ils se signalent à moi-même. Donc comment ça marche la Banque Centrale Européenne ? C'est pas, il n'y a pas Monsieur Banque Centrale Européenne, je veux dire, il y a un board, et
fonctionne par consensus, il faut le...
Voilà, donc il y a des débats internes de politique monétaire, il n'y a pas un Monsieur Banque Centrale qui
arrive... Le Conseil des gouverneurs, on peut le rappeler d'ailleurs, bien expliquer que c'est un conseil des gouverneurs des banques nationales, et il y a un comité exécutif, un board de la BCE avec 5 ou...
Il y a les conseils des banques de la zone euro, plus des membres du fonctionnement interne de la BCE. Voilà.
Donc, conséquemment, alors je veux bien qu'on critique Madame Lagarde, mais quand on voit tous les gens qui sont là, les compétences qui sont à l'œuvre, bon, elle n'est pas tout seule, comme si elle était en train de prendre une décision tout seule dans son coin, de manière un peu délirante. Il faut quand même rester sur terre. D'autre part, que le poste soit politique, c'est-à-dire que quand on choisit celui qui a la tête une dimension politique, la monnaie, c'est de la politique,
oui.
Autrement. Donc forcément...
Et de plus en plus.
De plus en plus. Donc ça, c'est une chose. Donc je ne comprends pas que, alors qu'on a fait un choix il y a plus d'une trentaine d'années de déplacer le pouvoir monétaire ailleurs, de s'étonner aujourd'hui que les banques nationales font partie du SEBC, du système européen des banques centrales. Voilà. Ça, c'est... Deux, ce que je trouve intéressant quand on regarde le discours de M. Villeroy de Galhau, parce que c'est un discours qu'il faut lire, que j'ai lu, il pose des débats, alors... Il a une position pour chacun de ces débats, et je trouve que ces débats doivent rester ouverts. Son discours est structuré ainsi, il revient sur les objectifs, sur les instruments, sur l'indépendance, et il finit très joliment, avec une référence allemande avec Emmanuel Kant, puisqu'il rêve de banquier kantien, dit-il à la fin de son texte, etc. Et il dit, il y a eu toute une série de débats sur la politique monétaire telle qu'elle a été menée, est-ce que, effectivement, c'est suffisamment démocratique ou pas, est-ce que le mandat de la BCE doit changer, voilà. Est-ce que c'est la stabilité des prix ou autre chose. Là, je trouve qu'on est dans des vraies questions. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est posé cette question, est-ce que ça doit être la stabilité Parce que, je rappelle, parce que souvent on fait un mauvais procès. Dans le texte, les textes européens, il n'est pas dit que la stabilité, c'est l'objectif le seul. C'est marqué objectif principal.
Oui. Mmh. Pas unique.
Pas unique.
Principal.
Principal. Donc ça implique une hiérarchie.
Oui.
Il a raison de poser ces questions et de dire, et ça je suis d'accord dans son discours, qu'il ne faut pas simplifier le débat. Mais il faut le garder ouvert sur le mandat, les instruments, sur la question de l'indépendance. Et la communication est essentielle. Je me souviens du très joli livre de Pierre-Noël Giraud sur la finance, où il parlait des moyens chamaniques de la politique monétaire, c'est-à-dire la manière dont les banquiers centraux communiquent. Et il disait ça en faisant référence à l'époque, quand le livre a été écrit, c'était Greenspan qui était la tête de la Fed.
Oui, Greenspan qui est incroyable.
Voilà, qui savait parler.
Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé.
Voilà. Et donc, le fait d'avoir une politique et d'avoir une communication, c'est très important parce que c'est, il disait dans ce texte, que c'est aussi important que les instruments qu'on utilise.
On appelle la forward guidance.
C'est un instrument.
Oui, je
alors, je pense que la discussion sur le mandat de la BCE devrait venir, est un vrai débat en ce moment. Parce que d'abord, il y a une grande, c'est vrai que la stabilité des prix, c'est l'objectif premier. Mais on a une grande différence entre la BCE et la Fed, qui sont les deux banques centrales les plus importantes. La Fed a explicitement deux objectifs. C'est-à-dire la stabilité des prix et le niveau
économique, du travail.
Le marché du travail. Ce qui n'est pas le cas pour la BCE. Et aujourd'hui, avec la situation d'inflation importée liée à la guerre entre l'Iran et les États-Unis, on va avoir une problématique d'inflation importée, mais cette situation, je pense, va avoir un impact plus important sur la croissance elle-même que sur l'inflation. Et donc, c'est pour ça que je crois que ce débat sur l'objectif...
On entend pourtant des hausses de taux,
Oui, on entend parler des hausses de taux, mais si on regarde juste l'inflation... je pense que ça donnerait un signal en disant on a une inflation qui est liée, temporaire ou pas, on ne sait pas, c'est lié à cette situation.
Et est-ce que mais c'est un choc de prix ou une inflation?
Mais en revanche,
c'est pas la même
ça a
chose.
Ça a un impact dépressif, on le voit aujourd'hui, sur la croissance économique.
Croissance zéro.
Et si on avait ces deux objectifs, je pense que, si vous voulez, si on regarde juste l'inflation, on pourrait être tenté par une hausse des taux. Mais si on regarde ces deux objectifs que sont le marché du travail, la croissance et l'inflation, à ce moment-là, je pense que la tentation est moins forte compte tenu de la situation actuelle. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le débat sur le mandat serait très bienvenu.
Voilà, c'est un vrai débat passionnant.
Je pense que l'Allemagne n'a pas peur de débat, madame. Et moi, surtout pas. Mais je me permets de vous rappeler que le consentement de l'Allemagne à l'époque du traité de Maastricht a transféré sa souveraineté monétaire à une banque centrale européenne, liée à la promesse que cette banque se limite au mandat de la défense et de la stabilité des prix. Point à la ligne. Alors, si aujourd'hui, il y a un débat sur la flexibilisation du mandat, sur l'élargissement du droit, que Madame Lagarde a fortement enrichi par ses discours assez dilettants, eh bien, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'indépendance d'une banque centrale sans limiter ses compétences. Une banque centrale qui, selon l'avis de Madame Lagarde et d'autres Français, veut également faire une politique écologique en préférant des emprunts verts, elle se perd complètement. C'est-à-dire le privilège que nous avons accordé, nous, les démocraties occidentales, à donner une indépendance véritable à la Banque centrale, c'est-à-dire à accepter que le principe de la légitimité démocratique ne joue pas là, dépend de cette restriction de la compétence. Mon maître et modèle, M. Ising, l'a dit, il l'a redit, et moi, son disciple, je le dis que cette indépendance, si on la considère sacrée, il faut bien la lier à une limitation du mandat. Alors, dans la réalité, le mandat de la Banque centrale a été déjà transgressé.
Oui.
Était déjà
Mario Draghi.
Les achats.
Mais heureusement, Mario Draghi, heureusement qu'il a fait ça pour sauver la zone euro.
Il a violé.
Oui, mais il a
violé.
Il a sauvé la zone euro.
Peut-être, il a tout simplement prolongé l'agonie de l'euro. L'histoire n'a pas donné son jugement sur l'euro. Ah. On verra.
Bon, Frédéric, un dernier mot et puis il faut qu'on avance.
Mais la gauche unie,
mais l'euro, c'est une force incroyable. Non, mais pour l'Europe,
Vous le dites, madame. Je ne veux pas le croire.
Pas tout ensemble. On laisse parler Frédéric.
Je veux dire, Heureusement que Mario Draghi n'a pas cédé à un dogmatisme rigide et a compris qu'il y avait un intérêt supérieur pour l'ensemble de ses membres, c'était d'engager effectivement une politique que l'on n'attendait pas, et il a pu faire en sorte que si on avait laissé la zone euro s'effondrer au moment de la crise des dettes souveraines, les conséquences collectives auraient été considérables. Je veux dire, c'est-à-dire que quand on s'engage dans un projet pareil, on sort pas comme si on sortait d'un bar après avoir fini une bière. Hein, je veux dire, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, il faut être sérieux. Je veux dire, ça engage quelque chose. C'est-à-dire, ouvrir à la crise des dettes souveraines une crise supplémentaire qui viendrait de l'effondrement parce que les banquiers centraux resteraient rigides sur leur position. Mais je sais pas, c'est un suicide collectif. Je sais pas, à moins qu'on trouve que c'est bien. Le suicide collectif, c'est bien. Donc voilà, ok. Bah alors, suicidons-nous
absolument
collectivement,
pas,
c'est une chose.
Non, mais on aurait pu sortir la Grèce, on aurait pu sortir l'Irlande. On n'a pas besoin d'une zone euro avec ces pays-là.
D'accord. En fait, on veut une zone euro avec le mépris, en pensant que les autres pays européens... La manière dont la presse allemande a parlé de la Grèce dans les années 2010, c'était quand même un peu problématique.
Il y avait une forme de sanction, une volonté de sanctionner la Grèce du côté de l'Allemagne.
Non.
Je veux dire, avec un gouvernement plutôt à droite voulait sanctionner un gouvernement de gauche.
L'impopularité de l'Allemagne en Grèce qui a été mal compris en Allemagne, hein, parce que c'est grâce à l'Allemagne que la Grèce a pu sauver sa mise. Hein, il faut bien quantifier les énormes sommes qui, par solidarité, a donné l'Europe pour sauver un pays qui représente 11 millions d'habitants.
2% du PIB, mais qui rembourse en avance.
Et une économie pas essentiellement nécessaire pour l'Europe.
Mais quel berceau quand même de la culture européenne.
Pas nécessaire pour l'Europe.
Cette culture si chère à vous, cher Marc.
C'est toujours Giscard d'Estaing qui a dit « on ne dit pas non à Platon ».
Voilà.
Mais c'est pas une raison de faire entrer la Grèce. Donc la Grèce fait toujours figure.
Elle rembourse, elle rembourse.
Mais
en avance.
Ils
ont fait le boulot. Ça a été douloureux, d'ailleurs, les pauvres. Allez, il faut qu'on avance. Je voulais qu'on parle place financière de Paris avec de très très bonnes nouvelles. C'est la CPR qui nous l'indique. Près de la moitié des demandes d'agrément bancaire de la zone euro se font désormais en France, à Paris notamment. Hein, c'est la place financière de Paris. Qu'est-ce qui explique cet engouement nouveau, si je puis dire, enfin,
Nouveau,
je ne sais pas, mais d'une telle intensité. On a multiplié par 5 l'année dernière le nombre de demandes d'agrément bancaire sur la place financière de Paris.
Alors, c'est un choix qui se fait en comparaison des autres choix possibles.
D'autres grandes places. Francfort est une grande place financière.
Après
Milan.
Le Brexit, beaucoup d'établissements ont dû faire un choix, puisque en fait il fallait mettre les activités européennes en Europe. Donc suite au Brexit, beaucoup de ces activités qui étaient auparavant logées à Londres, notamment tout ce qui concernait les banques d'investissement, donc les activités de marché, ont dû trouver un autre point de chute. Donc certaines se sont orientées vers l'Irlande pour des raisons de commodité de langage, parce qu'effectivement on parle anglais. Et après, les choix se sont portés vers les grandes capitales européennes. Donc, il y avait Francfort, Milan, Paris, Amsterdam. Et alors, je crois que très, très vite, le choix s'est rapidement limité à 2 places essentiellement, Francfort et Paris, pour des raisons différentes. Alors, Francfort avait l'avantage d'avoir la proximité avec la Banque centrale
BCE,
européenne,
bien sûr,
qui a non seulement la politique monétaire, mais la supervision bancaire unique, et Paris. Alors, beaucoup d'établissements, donc on a à peu près un choix moitié-moitié, mais maintenant, de plus en plus d'établissements choisissent Paris. Alors, pour quelles raisons? Donc, il y a plusieurs raisons. Enfin, j'en parle d'autant mieux que je suis au conseil d'administration d'une banque qui est en train de faire ce choix. Il y a un vivier potentiel d'employés en France qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres pays, notamment pour les activités de marché.
Oui.
Je pense que la France bénéficie d'avoir un volume d'ingénieurs sortis des grandes écoles françaises qui sont de très très bons employés pour tout ce qui est activités de marché, tout ce qui est trader, enfin tous les camps.
Oui, les fameux camps.
Les fameux camps. Ça sort essentiellement des grandes écoles françaises. Et d'ailleurs, même quand on regarde dans les salles de marché, il y a énormément de Français dans les salles de marché à cause justement du poids de l'ingénierie mathématique dans ces activités.
Reconnu internationalement.
Donc ça, on a un pool en France qui est à peu près unique. En Europe. Après, il y a quelque chose qu'on oublie, mais qui fait écho à la discussion antérieure, qui est la qualité de la supervision. locale. Et effectivement, la France a un superviseur qui est la CPR, qui a très longtemps, depuis très très longtemps, développé une expertise sur ces marchés financiers, oui. Et qui est, comment dire, très... pas à l'écoute, ça aurait une connotation négative, mais qui est très... Qui
pas forcément, non, on a le droit d'écouter le business,
qui
de dialoguer...
Qui est un très bon, je dirais, pour avoir, donc, un, été dans cette supervision française, oui. Et après avoir été soumis à une autre supervision en Allemagne, la France est une, c'est un atout d'avoir une supervision proche, attentive. En Allemagne, c'est un peu moins le cas. Il faut dire que pendant des années, tout ce qui était instrument dérivé était encore considéré comme une activité de jeu interdite en Allemagne. Donc en fait, on n'a pas cette culture, oui, d'activité de marché en Allemagne. Et on la retrouve pas chez le superviseur, ce qui est le cas de la CPR. Et donc ça, je pense que c'est un outil aussi. Alors maintenant, la France a des problématiques, a aussi mis en place un système d'impatriés, donc on n'est pas forcément
un régime fiscal spécifique.
Mais un régime spécial spécifique pour les employés.
Par Manuel Valls, il me semble à l'époque.
Par les employés qui acceptaient de venir de Londres,
oui,
à Paris, bon. Après, il y a d'autres problèmes avec ce système parce qu'il n'est pas mobile. C'est-à-dire la personne qui vient pour son premier emploi en bénéficie, mais après, si elle veut passer de la banque X à la banque Y, elle ne peut pas emmener son traitement fiscal avec elle. Donc, ça pose d'autres problèmes. Mais ça, c'est un système qui a été aussi mis en place à Paris et qui a été un atout favorable.
Comment se porte Francfort, professeur Kerber? Comment
vit-on
cette attractivité parisienne à Francfort?
Écoutez, vive la concurrence. Hein. Tout ce que Mme Attera vient de dire est très juste et très pertinent. L'existence de grandes écoles avec ce que vous avez appelé l'ingénierie mathématique, c'est nécessaire pour les salles de marché. La France a mené une politique assez volontariste,
oui,
pour faire de Paris une place financière. Et dans la mesure où ça concurrence Londres, moi en tant qu'Européen, je suis en faveur. Alors, la France a également bien joué pour obtenir le siège de la European Banking Authority,
oui,
qui a été transféré de Londres. Et sur ce plan, l'Allemagne, pour une fois de plus, a mal joué et n'a pas obtenu le siège de cette autorité à Francfort.
Oui, bon, il y a la BCE quand même à Francfort.
Très,
oui, ce n'est pas rien.
Très certainement pas décisif.
Oui.
Mais je dirais, je regarde ce processus de migration de personnel pour les banques d'affaires de Londres à Paris avec engouement et optimisme.
Bon.
Et puis la ville de Paris offre tellement de choses. Enfin, pour les gens qui viennent à la France, c'est vrai que c'est un grand pays multiple. Moi, j'habitais 7 ans à Francfort. On trouve moins d'activité.
C'est pas tout à fait le même paysage.
On va dire.
Oui. Oui. Frédéric Farah.
Bon, plusieurs choses. Si vous voulez, ça fait partie des jolis paradoxes de notre pays. C'est-à-dire que d'un côté, on a nos problématiques, on parlait des dépenses sociales, de la dette. Et de l'autre côté, que ça soit dans cette matière ou en matière d'investissement direct à l'étranger, la France reste un pays,
oui,
très attractif.
Très attractif. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler des bonnes nouvelles aussi.
Sur ces paradoxes, nous avons une main-d'œuvre qualifiée. Donc, il y a cette tendance à broyer du sombre et du noir en permanence. Mais quand même, les investisseurs étrangers, ils viennent chez nous. Les banques viennent chez nous. Je veux dire, on va quand même pas se plaindre. Et cet effort français de faire de Paris une place importante. Alors moi, je suis très attaché à l'histoire économique. Et parfois, quand je l'évoque, des années 80 à nos jours, j'évoque comme c'était il y a 110 ans, alors que c'était hier. Je rappelle que le premier effort qui avait été, enfin, pas le premier, mais l'un des efforts, rappelons-nous, la grande loi de 1984, je veux dire, qui avait été en fait conduite même par les socialistes,
socialistes français, tout à fait.
N'oublions pas, pour faire de Paris une place financière, une place boursière, exactement, significative, pour pouvoir anticiper sur ce qui était en train de se passer, sur les mutations qui avaient lieu dans la finance française. Donc ça fait 40 ans, je veux dire, qu'on a fait cet effort. Et je suis toujours étonné que cette loi de 84, elle est passée par la fenêtre comme si ça avait été un micro-événement, d'essentiel.
Tout à fait.
Mais voilà, et je pense que c'est des événements économiques.
C'est bien de le rappeler.
Qu'il ne faut pas oublier.
Lorsque
la France a engagé...
La bourse était en deuil.
Pardon?
C'est Pierre Bérégoy.
Oui, c'est un régime socialiste qui a effectivement ouvert la
finance. Comme le régime des impatriés qui avait été présenté par Manuel Valls à l'époque à Paris-Europlace.
Je suis très attaché à l'histoire économique parce que parfois elle nous fait oublier des choses. La CSG, c'était Michel Rocard. C'est-à-dire, il y a eu un sens du pragmatisme qui s'est fait au fil du temps et croire qu'on était dans une espèce d'idéologie fermée, rigide, c'est pas vrai. Je veux dire, les faits disent le contraire. Je veux dire, cette grande loi de 84, il faut pas l'oublier. Donc c'est quand même un effort sur 40 années. Et 40 années, c'est pas rien quand même dans la vie d'un homme ou d'une femme.
Non, c'est vrai.
Bon, et l'effort finit par payer. On le voit aujourd'hui avec ces excellents résultats. Bon, il est 10h27, voilà. Malheureusement.
Il ne faudrait pas que les évolutions récentes...
C'est ce que vous voulez dire, Sylvie. On n'a pas le temps de parler, malheureusement, des véhicules autonomes. On y reviendra très prochainement dans l'émission. Merci à tous les trois, Sylvie Matera, Frédéric Farah et Marcus Kerber pour cette émission animée, passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. On se retrouve demain, 9h30. Notez bien ce nouvel horaire, 9h30, 10h30, mais toujours en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.